Merci à tous d'être venus écouter Bertrand Belin pour son premier roman Requin, qui est sorti le 5 mars aux éditions POL, si je ne m'abuse. Alors qui ne contient en première instance aucun requin, mais qui se déroule pourtant en eau trouble, dans le contre-réservoir de Grosbois. Donc non pas Grosbois dans le Val-de-Marne, qui était moi ce que je connaissais, donc au début je voyais ça. Et en fait non, c'est Grosbois, près de Dijon. Alors c'est l'épopée d'un homme qui se noie, épopée et mélopée, d'un homme qui se souvient des événements les plus fondateurs de son existence, notamment une fameuse nuit de 1986, riche en événements, dite « La nuit du lait ». Alors c'est un livre extrêmement drôle que j'ai lu déjà deux fois en un mois, ce qui est quand même beaucoup, et qui, malgré sa grande poésie, contient aussi des scènes très visuelles et très fortes. Alors Bertrand Belin, on vous connaît avant tout grâce à la chanson. Vous êtes lauréat de la prestigieuse Académie Charles Cros. Vous avez sorti 4 albums de cette chanson française qui vous caractérise, extrêmement élégante, avec votre voix qu'on aura peut-être la chance d'entendre dans quelques instants. Alors, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous raconter comment il vient à un chanteur la tentation d'écrire un roman, en plus dans un pays qui se méfie souvent des doubles casquettes ?
C'est vrai, j'ai longtemps craint cette caractéristique que vous venez de mettre en lumière. Mais cela dit, ce n'était pas suffisant pour m'empêcher de le faire, quoi. Mais j'ai jamais vraiment. Moi, je crois que j'ai toujours. Je suis sûr que j'ai toujours écrit autre chose que des chansons, des textes plus ou moins longs qui n'étaient pas forcément amenés à être publiés. J'ai jamais pensé un jour publier un livre. En revanche, je me suis toujours autorisé à écrire tout ce que j'ai voulu. Heureusement, la plupart des manuscrits sont perdus. Mais j'ai fait des chansons, probablement. Je ne chanterais pas si je n'écrivais pas. J'écris des chansons parce que j'aime écrire. Je suis d'un naturel plutôt, comment on pourrait dire, assez feignant. Si bien que le caractère très laconique de mes chansons est aussi le reflet de cette caractéristique qui m'est propre. Mais néanmoins, je pense quand même que je ne chanterais pas si je n'écrivais pas. Donc de là, je suppute que j'écris des chansons parce que j'aime écrire. Et dans le fond, je l'ai fait pour entretenir des braises, souffler sur des braises, qu'un feu reste vivant, sans penser qu'un jour j'écrirai un texte qui s'imposerait à moi avec assez de force pour oser le présenter à un lecteur. C'est ce qui s'est passé avec Requin. Voilà pourquoi je me suis dit aussi que qu'importe si on allait me dire que j'étais un chanteur qui écrivait, puisque c'est le cas.
Donc vous avez écrit avant que de jouer de la guitare ?
Non, je pense pas. À peu près en même temps, au début de l'adolescence. Enfin, je sais quoi le début de l'adolescence, je sais pas trop. Vers 14 ans, c'est peut-être le milieu, ça, non ? Ouais. À peu près à cette époque-là, j'ai commencé à écrire. Vous voyez comme on écrit, quoi. C'est-à-dire rien, quoi. Mais enfin, un peu. C'était plutôt pour faire quelque chose que mes frères et sœurs ne faisaient pas, quoi. C'était un peu pour jouer avec le feu, me construire un atelier clandestin au sein de la fratrie et même de la bande de camarades. Puis j'ai été rejoint. Dans ce type occulte d'activité, par un ou deux copains du collège qui s'intéressaient aussi, mais comme on s'intéresse, c'est-à-dire à l'adolescence, en particulier à ce qu'on appelle à l'époque, à ce moment-là, la poésie, quoi. Ce qu'on croit être la poésie, si. Après, on n'en sait pas plus 40 ans après, d'ailleurs, je le remarque. Mais on avait un petit club comme ça, c'est très club des cinq, un peu. Ça fait un peu récit, un peu. Voyez. Bon, on avait formé un petit club de copains, on s'amusait à écrire, à s'échanger nos textes. On ne les commentait pas, je crois que ça suffisait.
Alors, si j'ai bien compris ce que vous aviez raconté à Augustin Trapenard sur France Inter, au départ, ce texte de Requin était beaucoup plus court et... Et ce n'est qu'après qu'il est devenu un roman.
Oui, il était donc plus court. C'était pas un début de, enfin, c'était pas. D'ailleurs, le texte qui forme, qui a formé un peu l'étrier ou qui a le foyer, le début, comment on
La
appelle ça, le
matrice.
départ d'incendie, n'est pas le début du livre, mais c'est une séquence qui se trouve à peu près en son milieu. Mais le livre a poussé un peu autour comme une sorte de, encore une fois, d'onde ou d'explosion florale. Enfin, comme on voit une fumée, comme on voit un nuage qui se déforme en grossissant, c'est une sorte de dilatation, quoi. Mais la dilatation, tout le livre n'est qu'une histoire de dilatation, notamment du temps, quoi, mais du temps de la noyade du personnage central.
Oui, alors vous parlez de nuages. Alors je vais citer l'épigraphe du roman, qui est très beau, très belle, puisque une épigraphe. Donc c'est René Daumal, que je ne connaissais pas, j'avoue. C'est un poète du début du XXe, qui est mort assez jeune. Il est très tentant, lorsqu'on rapporte des événements passés, de mettre de la clarté et de l'ordre là où il n'y avait ni l'un ni l'autre. Alors c'est assez ironique, parce que la clarté et l'ordre, c'était pas forcément vos points de mire dans ce roman, on a l'impression.
À part dans la confrontation directe avec le travail d'écriture, qui est un travail d'architecte aussi, il faut tenir un peu ici, bâtir un peu là, redescendre un peu ici, un travail comme ça d'équilibre à faire, ce qui s'apparente à une sorte de mise en ordre, quand même, mais mise en ordre d'un matériau qui ne répond à aucune règle, quoi. Donc il faut inventer les systèmes en même temps qu'on invente qu'on est confronté au matériau qui arrive de phrase en phrase, quoi. Donc la question d'ordonner, d'opérer une sorte de tutelle sur ce qui se passe dans ce petit monde du texte, et quand même, voilà, demande une certaine discipline, vous le savez. Vous savez bien. Donc oui, il y a quelque chose, il y a quand même quelque chose à voir avec l'ordonnance et un désir de clarté pour mieux ensuite opacifier quand c'est nécessaire certaines prises de parole ou séquences.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent dans votre texte une tension entre, en un sens, le désir d'aphorisme et le désir de fragments, et de l'autre, le désir de récit, qui court surtout le long du livre, parce que ça forme quand même un roman avec des rebondissements, des attentes, qui sont pas totalement étrangères au roman traditionnel.
Oui, alors là, il est possible que cette présence, peut-être pas complètement, disons, patente de l'aphorisme dans le livre, soit peut-être une déformation due au fait que j'écrive aussi des chansons et que j'ai dû, en écrivant des chansons, probablement avoir affaire à une certaine, comment dire, quête de la synthèse, quoi. Faire tenir en peu de choses le plus possible, en peu de mots le plus possible, parce qu'il y a des contraintes. Bon, on ne sait pas comment elles se sont imposées, mais les chansons, depuis le Moyen Âge, sont assez courtes. C'est court, les chansons. C'est jamais très très long. Alors, il faut quand même que ça ressemble à quelque chose. Il est possible que ça vienne de là, mais voilà, je le formule, enfin, je le découvre en le formulant, quoi.
Oui, parce que le livre est donc divisé en 27, si je ne m'abuse, 28 chapitres. Et donc, comme je disais, c'est l'histoire d'un homme qui se noie dans un contre-réservoir et qui a une sorte de ton badin, et ce qui est assez drôle, ce qui m'amène à me demander si est-ce que la question de la mort était peut-être un peu évident, mais est-ce que la question de la mort était centrale à l'origine était vraiment à l'origine du texte?
Oui, c'est pas tant la question de la mort, parce que la mort, disons, par son caractère impérieux, a tendance à prendre un petit peu, à voler la vedette à l'autre personnage, à l'autre versant de ce livre, qui est le seul, ce qui est la vie. Et donc, évidemment, la mort, bon, ça a l'air plus grave. ça prend vite toute la place. Mais en fait, il était plutôt question de savoir comment on fait vivant avec cette idée de la mort. Mais ce n'est pas la mort, être mort, ne plus être là, c'est la mort qui, contre laquelle on est légitimement parfois amené à se mettre en colère, parce qu'on est, on se trouve souvent à raison digne d'être exempté de ce genre de problème. Hein, on aimerait bien, n'est-ce pas ?
J'espère. Tout à fait, et votre personnage d'ailleurs le souhaite, dit qu'il aimerait bien, si possible, qu'il y ait au moins une exception, et si ça pouvait être lui, ce serait pas mal.
Voilà. Alors, je trouve qu'il y a une, comment on appelle ça, une dispersion, une beaucoup d'énergie gâchée à redouter la mort, mais on peut comprendre, hein, on comprend. J'ai même de l'indulgence pour moi-même à ce titre, quoi. Mais une fois en marchant, comme il m'arrive souvent de le faire, je pensais à un requin. C'est pourquoi le livre s'appelle Requin. C'est une fantaisie zoologique, une sorte d'aphorisme de système très court. Et je représentais le requin dans l'eau avec son aileron. Et je m'étais fait la réflexion comme ça en marchant, que ce qui était curieux avec le requin, c'était que le requin est redouté pour sa mâchoire, pour ses dents. Pour rien d'autre, parce que le reste du corps n'est pas si dangereux que ça. Mais pour sa mâchoire, et tout le monde se souvient bien des dents de la mer, par exemple, ou de n'importe quel autre moment où on voit un requin prétendu méchant, son aileron dépasse de l'eau et annonce sa venue. Donc l'aileron annonce la venue du danger. Mais le danger, si c'est les dents, se trouve avant l'aileron, dans le cas d'un requin. Et je trouvais ça amusant, ce paradoxe idiot, bien sûr, qui ne tient que dans l'énonciation burlesque que j'en fais. Mais c'était amusant de voir qu'on redoute quelque chose qui est déjà là. Et on se croit protégé en ayant vu un signal qui finalement ne sert pas, puisqu'il est, il arrive après le danger. Et je trouve que vivre en redoutant la mort, c'est un peu ça qui se passe, quoi. Alors, j'avais le contre-réservoir de gros bois, j'avais mon requin, et c'est devenu ce livre.
Voilà. Oui, sachant que vous disiez, si je me souviens bien, également sur France Inter, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'idée qu'en fait, le requin est inquiétant au pluriel, mais au singulier, il perd un peu de son...
Ah oui, parce que ça devient un requin de dictionnaire. Mmh. Un requin de dictionnaire, c'est un requin généreux, c'est un requin de générosité, que c'est un requin, c'est un timbre, c'est une pastille, c'est pas plus dangereux que crocus ou jonquille, quoi. C'est requin. Quoi. Mmh. Quoique jonquille au pluriel, c'est peut-être commence à devenir un peu dangereux. Je sais pas, mais...
Oui, puis c'est un mot assez mignon, assez musical, hein. Et le musicien que vous êtes a dû... Oui. En être conscient.
Oui, d'ailleurs l'étymologie est assez incertaine, peut-être qu'il y a eu des travaux depuis que je me suis renseigné, et peut-être que vous êtes au courant, mais d'après mes recherches, ça ne mène pas grand-chose, parce que d'après mes recherches, on ne sait pas. D'après ce ne sont pas mes recherches, c'est les recherches des étymologistes renommés, patentés. Mais en revanche, on appelle le grand requin blanc en anglais « requiem ». Très clairement, donc l'idée de danger, de mort, de trépas imminent et tout ce qui s'ensuit n'est pas sans lien avec requin. Hein. C'est une des pistes étymologiques. Mais bon, je ne l'ai pas du tout exploré ni exploité dans le livre parce que ce n'était pas certain.
Mmh. Alors, on a l'impression que ce qui vous caractérise, et on en a eu un petit échantillon à l'instant, c'est une capacité d'analogie. Très forte, assez convulsive. On a l'impression qu'en fait, les événements que vous percevez sont jamais uniques, mais forment un faisceau de ressemblances.
Entre les événements.
Ben, une capacité d'analogie assez, le fait est que vous utilisez beaucoup de métaphores, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui. Oui, mais je ne sais pas d'où ça vient. Les choses ne s'expliquent pas d'elles-mêmes, quoi. Ni les événements, ni les objets, d'ailleurs. Du coup, c'est vrai que l'analogie peut être un moyen d'organiser sa pensée, l'extraire de la substance, des choses inertes, des situations. Peut-être que l'analogie permet, voilà, en effet, de construire une structure pour accueillir pour accueillir ces événements, quoi. Parce que brutalement, vous avez vu que je porte pas, je n'ai pas la capacité de le faire d'ailleurs, un regard sociologique ou philosophique sur les événements de ce livre. Les événements arrivent, il ne m'appartient pas à moi de les commenter en termes symboliques ou quoi, et tout se trouve dans le texte. J'ai une grande confiance dans la capacité de chaque lecteur, et moi comme lecteur aussi, à faire appel à mon propre système d'analogie pour pouvoir accueillir en moi ce qui vient d'ailleurs, d'un autre.
Tout à fait. Mais alors, ce que laisse entendre aussi ce regard du narrateur, c'est qu'il y a toujours quelque chose en fait derrière le réel, parce qu'il y a toujours, vous voyez, ce regard perçant qui essaie toujours, et qui est lié à la philosophie, en fait, à une recherche. Et votre prose ressemble parfois, peut-être aussi par dérision, à quelque chose du sérieux de la philosophie.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, pour moi, c'est un moteur, l'écriture, le déploiement de tout ce qui se trouve contenu dans ce vers. Bon, ben, Francis Ponge l'a déjà expérimenté, mais on pourrait prendre ce tire-bouchon, parce que je crois qu'il n'a pas fait le tire-bouchon, il me semble. Et puis essayer de voir comment on peut faire grandir tout ça par des réseaux d'analogies ou d'autres méthodes, mais ça s'apparente un petit peu une sorte de pataphysique aussi quand même. Mais bon, pour résumer, je suis posé devant le spectacle des objets comme des situations ou des végétaux ou de tout ce qui m'entoure, même des personnes parfois, seulement l'échange et le dialogue et la parole fait oublier ça. Pour moi, c'est le seul monde dans lequel je puisse vivre, c'est la parole qui offre un semblant quand même de, je sais pas, de une volonté. Quelque chose qui est passé par la raison, qui ne semble pas être le cas de toutes les autres choses que la langue. Donc il faut lui retrouver du sens, etc. Mais simplement faire l'aveu de l'incompréhension dans laquelle on est placé face à un muret ou à une pierre, par exemple, simplement en faisant l'aveu, bien sûr, on sent bien quel potentiel ça a, quel lien ça a avec la philosophie ou la métaphysique, et ça en a forcément, de fait. Mais il faudrait être philosophe pour conduire ces réflexions-là loin. Je suis plutôt de la matière, je donne plutôt de la matière à philosopher que je ne philosophe moi-même, quand même, il me semble. J'en serais bien incapable, par ailleurs.
Alors, c'est vrai qu'il y a on sent dans le roman un rapport très intime du narrateur avec les objets, un rapport parfois conflictuel, mais en tout cas de fascination.
Oui, c'est ça. C'est...
Et d'ailleurs, il y a un vers qui, à un moment, qui est décrit de long en large. Le narrateur explique qu'un vers est la seule chose. En fait, c'est quand il tombe, il produit une explosion qui est l'explosion la plus fréquente que l'on connaisse, en fait.
Ouais, il faudrait revenir un petit peu en arrière pour que ça ait l'air. C'est vrai, mais c'est vrai que j'ai dit ça, je reconnais. Oui, mais j'ai pas décrit le vers. J'ai pas décrit le vers.
C'est l'aboutissement d'un développement que je vous ai.
J'ai pas décrit le vers. Non, c'était une fantaisie, mais c'est. Mais en fait, bien sûr, puisque si on pose en posant un regard comme ça un peu qui cherche les noises un peu. En fait, je cherche un peu les noises à un fait de rien du tout, un verre qui tombe d'une table. Bon, ça va, hein, ça nous est tous arrivé. Mais j'ai remarqué quand même que peut-être que je me trompe en pensant que c'est répandu chez chacun, que c'est si courant que ça, mais pour moi, quand un verre tombe, c'est quelque chose de plus grave que quand une éponge tombe. C'est plus grave, c'est pas grave en soi, c'est pas grave, mais le moment est vécu comme quelque chose d'un petit peu plus catastrophique, c'est un peu plus catastrophique quoi, qu'un stylo qui tombe, parce que le stylo n'explose pas, mais le verre explose, c'est peut-être ça qui explique que ça paraît plus catastrophique. Donc je me suis dit que c'est l'explosion qui rendait les choses catastrophiques. Alors les très grosses explosions, grosses catastrophes, petites explosions, petites catastrophes. Mais il y a donc un rapport, il y a un rapport de comme ça d'échelle à faire entre les catastrophes, mais ce qu'on appelle catastrophe au sens dans un sens moi, je ne sais pas exactement, je me trompe peut-être en disant ontologique ou philosophique, disons. La catastrophe, je l'ai lu chez certains auteurs comme Francis Ponge notamment, qui parle de ça. Il parle de la fin d'une chose comme d'une catastrophe. Il parle de la fin d'un objet comme d'une catastrophe dans le sens où quelque chose est puis quelque chose n'est plus. Il y a une pérennité qui est interrompue, qui pour reprendre cette formule, qui nous paraissait acquise, mais qui en fait non, en fait, non. Et ça, c'est déjà une catastrophe, mais une catastrophe de rien du tout. Donc, entre la fin de la table, qui est une catastrophe pour la table, puisque je ne sais pas si elle est contente d'être une table, mais personne ici peut me dire qu'elle est mécontente de l'être. Donc, il y a une table. À un moment donné, il n'y a plus de table. C'est quand même catastrophique, quoi. Mais ce n'est pas catastrophique. Mais c'est une catastrophe. Et donc, comme ça, on peut aller jusqu'à un accident d'avion, une centrale nucléaire qui explose. Voilà, c'est un réseau de. C'est comme voilà, une sorte de camaïeu de catastrophe. Bon, on n'est pas obligé de penser à tout ça, on peut traverser l'existence sans ça, mais moi, des fois, je pense à tout ça parce que ça produit du jeu. Ça produit du jeu, et puis c'est pas si stérile que ça, quand même. Parce qu'au moins, ça permet au moins de faire quelque chose avec une table. Parce que sinon, le reste du temps, on ne fait rien du tout avec les tables ben, on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire poser ses coudes et tout, travailler dessus, dîner, etc., qui sont des choses normales. Mais je ne dis pas qu'il faut avoir des manières et de la gentillesse avec les objets. Je ne pense pas qu'ils s'en foutent, à mon avis. Mais ce n'est pas grave. Le faire, ça aide un peu l'homme. Je trouve qu'on vit mieux quand on considère les objets inertes.
Ça me fait penser à une anecdote que j'ai lue récemment sur les biques, en disant que les premiers biques, pour les vendre, ils les lançaient contre les murs pour montrer qu'ils fuyaient pas, vous voyez.
Ouais.
Et donc comme on les lançait très fort et ça fuyait pas, donc voilà, c'était juste pour apporter ma pierre à l'édifice.
C'était un risque quand même, parce que vous savez qu'en physique quantique, il existe une probabilité que le stylo traverse le mur.
Ah non, ça je ne
Ah,
savais pas.
il faut le lancer très très nombreuses fois, mais c'est envisageable dans
Oui, c'est
l'état
une
de la
expérience de
science.
pensée,
Voilà. La
oui.
science où on en est aujourd'hui postule qu'il n'est pas impossible que si vous râpez un téléphone portable avec une râpe et que vous en faites de la poudre et que vous prenez cette poudre et que vous la lancez en l'air, il ne se reforme pas en téléphone portable. C'est possible. Méfiez-vous.
Alors, est-ce que vous pourriez me parler un peu du cynisme du narrateur? Parce que c'est le mot qui vient à l'esprit quand on lit un peu ses premières élucubrations. Et après, il y a un moment dans le livre où il s'en vante.
Ah oui, non, non, non. Oui, alors c'est vrai que le mot est utilisé, mais le mot est utilisé, mais c'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai, déjà,
Certes,
la
non.
chose. Hein. Donc moi, il ne me semble pas que ce personnage soit cynique. Je pense qu'il croit l'être, ou voilà. Je pense qu'il est ironique. Il est peut-être fatigué. Hein. Il a l'air un peu fatigué quand même. Mais non, ce cynisme pour lui, il s'en explique en disant que il n'est pas, il a arrangé les liens je suis désolé, je me cite un peu, mais vaguement, c'est pas exactement ça, mais et les liens qui le reliaient au plaisir de vivre et qui se sont rompus et qui battent aux quatre vents comme le bout d'un tendeur ou je sais pas, quelque chose de rompu, quoi. Il s'est retrouvé dans une situation de déplaisir quant à la vie, de certaines souffrances en fin de compte. Et le spectacle des gens heureux autour de lui, ou simplement pas heureux, mais pas malheureux, est une brûlure. Dans ses efforts pour récupérer un peu un semblant de pour retrouver la communauté des hommes, il n'a pas trouvé d'autre lien que. un humour parfois peut-être cinglant, où il n'arrive pas à retourner. Et il a arrangé les brins rompus de ce liens de ce plaisir qu'il reliait à la vie. Il les a arrangés, comme il dit, en un unique fouet. Quoi. C'est devenu un fouet. Voilà. C'est pour organiser sa débâcle, il a fait une chose dont il est au moins responsable, pour essayer de faire quelque chose de tout ça. Et ça donne le cynisme. Mais il ne se vante pas de l'être, mais ce dont il se vante, c'est d'avoir réussi à toujours faire claquer son fouet comme un dompteur de fauves, non pas sur les bêtes, qui lui rendraient un coup de patte immédiatement, mais à côté, pour que ça fasse un bruit et que ça puisse imposer une certaine autorité. D'ailleurs, le cynisme a souvent beaucoup à voir avec l'autorité. C'est souvent une autorité qui n'a pas été finalement octroyée, quoi. Alors c'est moche.
Alors, ce qui est assez fascinant, c'est de voir la grande modernité du livre. Et vous parliez de pataphysique, et en même temps, vous respectez la syntaxe.
C'est les professeurs à l'école primaire depuis le début qui nous demandent ça aussi.
Hein. Non, mais c'est une vertu. Hein.
Oui, ben je sais pas, ça me paraît pas respecter.
Je veux dire que vous n'inventez pas de mots, vous n'inventez pas de.
Oui, il y a plein de façons de respecter la syntaxe. D'ailleurs, je suppose que ne pas la respecter est la manière plus impérieuse de la respecter, parce que ça la fait apparaître déjà d'une part. Et il y a des ressources. Dans les chansons, par exemple, je le fais. Il y a des chansons où je ne respecte pas la syntaxe, parce que ne pas respecter la syntaxe permet aussi de faire apparaître, de faire exister d'autres provenances de la langue. Quand quelqu'un nous parle mal parce qu'il parle un mauvais français, non pas parce qu'il parle une autre langue, mais il est français, il a appris le français à l'école, mais il n'arrive pas à s'exprimer convenablement, il fait des fautes de français. Cette syntaxe abîmée nous transporte énormément d'informations. Hein, j'aime beaucoup la syntaxe accidentée. Si je le fais pas là, c'est parce que moi j'ai mon histoire propre aussi avec ça. Mais je le fais dans les chansons. Je le fais dans les chansons parce que je trouve que ça fait jaillir des silhouettes disparates et que c'est important que la langue soit soumise aussi à ce traitement. Mais il est vrai que la syntaxe et la grammaire ne se sont pas établies comme ça par hasard. C'est que elles résultent d'un lien intrinsèque, ontologique du développement de la pensée, quoi. Et que du coup, la syntaxe telle qu'elle est établie aujourd'hui, ou la grammaire en France, dans chaque langue d'ailleurs, est construite de telle manière à pouvoir produire les discours les plus, profonds, poussés, élaborés. Donc, n'explorant qu'une particule infime de cette grande chose qu'est la parole, je le fais pour l'instant en respectant la syntaxe.
Bien que certains personnages aient un langage un peu plus châtié, il y a celui qui lui dit « toi qui aimes bien les squelettes ».
Oui, bien sûr, mais ça fait partie on voit bien que toi qui aimes bien les squelettes, il y a une certaine décontraction. Si quelqu'un dit toi qui aimes bien les squelettes, il y a une décontraction. Cette décontraction est le signe d'une meilleure santé, peut-être, une plus grande joie de vivre, ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, en faisant parler les personnages comme ça, ça pose le personnage principal dans une situation qui serait un peu extérieure au monde, quoi. Parce qu'on ne peut pas s'appliquer à tous les endroits de la vie, quoi. Lui, il fait un peu ça. Il fait un peu ça parce que peut-être est-il, je sais pas. Oui, je pense que c'est parce qu'il est perdu qu'il se raccroche à ce qu'il peut, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'il aime pas les squelettes.
Alors les squelettes, parlons-en. Il se trouve qu'il participe à un vol de squelettes d'ailleurs dont il est le seul instigateur, je crois bien. En revanche, je n'ai pas réussi à établir le nombre final de squelettes. Je ne sais pas si c'est 40 ou 200 ou 400.
400, il me semble. Hein.
C'est 400. Et il vole 400 squelettes. Et je me suis dit, est-ce que ça ne vous a pas été inspiré par une coupure de presse? Parce que c'est l'effet que ça fait.
Non, pas du tout. Non, non. J'ai inventé une coupure de presse, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Mais non, non, pas du tout. S'il n'y a pas de policiers dans la salle, je peux le dire. Je connais un endroit où il y a 400 squelettes mérovingiens. Je les ai fréquentés, je les ai manipulés, je les ai nommés, je leur dis bonsoir, je les ai même parfois dérangés. C'est un peu enquiquinant parce qu'il y a notamment des tables entières qui sont comme ça jonchées de crânes. À plusieurs reprises, je suis passé, c'est dans une grange, Alors ça fait clac, 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 comme ça bouge. Alors il faut s'excuser un par un, sans connaître leur nom, à ces mérovingiens. Bon, j'ai comme ça traversé, c'est une chance inouïe de se trouver dans une situation telle, mais bon, c'est vrai que j'ai connu un épisode comme ça avec 400. C'est ça qui m'a inspiré cette histoire. Mais ils n'avaient pas été volés, ils étaient là, ils étaient à leur place, quoi.
En tout bon droit. Ce personnage est donc topographe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est ?
Pas beaucoup, non. Mais enfin, un topographe, c'est un... Non, pas beaucoup, non, parce que je suis... Parce que c'est tellement de choses différentes. Alors, il y a évidemment un jargon consacré, mais enfin, un topographe, c'est une personne qui a un savoir technique, scientifique, qui utilise des appareils. C'est donc très ancien comme discipline, hein, depuis l'Antiquité et probablement avant, qui est capable de relever sur un terrain un certain nombre de points qui vont lui permettre d'établir un plan cohérent d'un relief. Voilà, c'est à peu près ça, il faut dire ça. On en voit dans la rue avec des trépieds, vous les voyez, hein, ils ont des appareils dioptra, corobat, qui sont des maintenant que ça s'appelle ça une station totale. C'est pas comme une station totale de... Non, ça s'appelle une station totale parce que ça fait tout. Et donc il y a une mire, il y a un œilleton. Bon, bref, on trace des lignes dans l'air comme ça, c'est assez beau à voir. Et donc on en voit dans toutes les équipes de travaux généraux, hein, bien sûr, mais également pour ce qui concerne les fouilles archéologiques, puisqu'il y a un relevé du relief qui s'impose pour garder des traces de la situation exacte du moment où les sites sont... où les recherches sont entamées sur le terrain, et puis aussi des relevés permanents pendant la fouille, parce qu'il va falloir relever à chaque fois que le relief change, consécutivement au creusement. Quoi. Donc c'est un topographe, voilà, c'est ça le topographe. Mais peut-être que vous pouvez en dire les choses que j'aurais oubliées.
Comme ça, là, non, pas forcément, si ce n'est que c'est un personnage qui, dans le livre, a beaucoup de mal à transmettre sa passion.
Oui, parce que ça le passionne pas, la topographie. Lui, il est topographe parce que il a une passion pour l'archéologie depuis qu'il est jeune. Mais il a peut-être.
Lui, c'est les silex, son affaire.
Oui, non, c'est pas seulement. Non, pas seulement. Les silex, ce qu'il y a, c'est que pour quelqu'un qui n'est pas archéologue, le silex, c'est vite vu, quoi. Ouais. Mais s'il n'y a pas que ça qui l'intéresse. Et puis, dans le silex, il y a toute l'archéologie. Même dans un tesson, il y a toute l'archéologie. Il y a aussi, dans un silex, il y a le Crétacé, les dinosaures. On sait bien que ce n'est absolument pas juste sur le plan scientifique, mais dans sa passion de l'archéologie est de ce genre. La fascination devant un objet dont il ne reste aucun modèle d'emploi, ni aucune traçabilité de l'usage, ni... alors c'est facile de reconnaître une flèche de... C'est facile, on sait bien que c'est un outil, quoi. Mais il n'y a personne pour nous en parler véritablement. C'est complètement disparu. Ça devient un sujet de. Alors, la paléontologie encore plus, mais ça fait apparaître des objets mobiliers, des choses, finalement, sur lesquelles on peut spéculer en assez grande liberté, puisque personne, comme la mort d'ailleurs, ne revient de la mort pour nous dire non, non, mon cher ami, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. Donc, c'est un sujet qui est vaste et qui a encore comme qualité d'être assez vierge, quoi. On peut spéculer, quoi. C'est comme après le Big Bang. Avant le Big Bang, on peut aussi spéculer. Hein. On peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. D'ailleurs, il y a des luttes dans le milieu de l'archéologie entre des tenants de telle hypothèse ou thèse et d'autres. Le débat est permanent, quoi. Ça, c'est très intéressant. Donc, on peut se sentir libre, même en tant que néophyte ou vraiment même quelqu'un de... Tout le monde peut s'intéresser et développer des théories. C'est possible. C'est possible, on ne reçoit pas trop de contradictions. C'est l'avantage. Mais enfin, le topographe, donc il est topographe parce qu'il est passionné d'archéologie, mais il n'a pas réussi à devenir archéologue parce que probablement ça lui demandait trop d'efforts, trop d'écoles, trop de travail. Et donc il est devenu topographe pour intégrer, dans l'espoir d'intégrer une équipe de recherche archéologique. Et c'est ce qu'il a fait, c'est sa réussite. C'est sa grande réussite. Voilà. Ce faisant, il développe des théories. Il a quelques amis d'ailleurs avec lesquels le faire, qui ne sont pas non plus archéologues. C'est comme une sorte d'antichambre de l'archéologie. Il est presque le héros. Il est une sorte d'antichambre de ce qui aurait pu constituer à ses yeux un destin idéal.
Et alors, dans son rapport aux autres, on voit que. Il a du mal à intéresser les gens à ce qu'il raconte, et on sent que il y a chez vous une sorte d'affection pour l'inadapté, pour l'improductif.
Oui, c'est vrai. Il a du mal parce que ça a tourné chez lui à l'obsession. Il a intéressé, par exemple, le personnage féminin qui s'appelle Peggy dans le livre, puisqu'il l'a séduite aussi avec les armes qui étaient les siennes, c'est-à-dire cette connaissance scientifique approximative, mais néanmoins présentée comme sérieuse et grande. Il a réussi à faire des numéros de claquettes, à entourlouper tout le monde. Mais une fois que ce vernis s'est craquelé, qu'au bout de 10 ans ou 2 ans, ou c'est pas dit d'ailleurs, mais oui, ça n'intéresse plus trop. Parce que, on a compris, on a eu d'autres types de paroles, on a entendu d'autres gens. Et puis surtout, on a commencé à comprendre que y avait une... Son entourage comprend qu'il y a une certaine frustration quand même dans ce personnage.
Alors ce narrateur, il a la tendance à ressasser les événements. Est-ce que ce ressassement, il a une fonction d'éloignement de l'événement ou au contraire de le déterrer peu à peu ?
Ressasser, non, il n'a pas tellement le... Je ne sais pas si c'est du ressassement. J'ai l'impression, moi,
que c'est... peut-être un mot négatif ?
Non, je ne trouve pas. Ça peut être... Non, je ne prends pas comme ça, mais c'est moins du ressassement que faire de nouveau la promesse de l'élucidation d'une chose. Je vais bientôt... C'est un ressort dramatique, en fait, comme le suspense, quoi. On s'approche toujours du moment où on va enfin avoir l'information qui nous manque et cette offre de l'information est de nouveau ajournée, quoi, remise à plus tard. Donc ça crée un sentiment de frustration. Mais ça, je pense que ça a plus à voir avec vraiment le livre qu'avec son personnage.
Et ce qui n'est pas du tout inintéressant d'ailleurs, de voir comment comment le roman est allé, sans accent circonflexe, avec un H, par cet événement qui est au bout du livre, qui est la fameuse nuit du lait, la nuit où le narrateur a pêché du lait en 1986 dans le port de Dieppe. Et donc il y a cette annonce constante qui revient dans le livre. Et on se dit, mais quand est-ce qu'on va connaître, enfin, quelle était cette nuit ?
Oui, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça procède d'un... C'est une ressource de dramaturgie, quoi. Et puis aussi, ça a à voir aussi avec le... Ça a un petit peu aussi à voir avec la situation... Ce qu'on n'a pas dit, je crois, c'est que le personnage parle depuis le milieu d'un lac artificiel dans lequel il est en train de se noyer. Et cette noyade dure tout le temps du livre. Simplement, le peu de force qu'il a encore en lui, au moment où il se débat, permettent de se maintenir un peu à la surface. Et c'est un postulat fantasque d'imaginer que ce soit possible, mais c'est tout l'intérêt de la littérature. C'est que du coup, on va lui, il est occupé par de la panique. Et moi, je me suis amusé à capturer cette panique, l'ouvrir comme un fruit et voir ce qu'il y avait dedans et la déplier le plus loin possible en imaginant que le noyant, celui se noyant, en était conscient, mais en réalité, c'est peut-être pas exactement ça. Alors il se noie tout le temps. Il se noie tout le temps. On revient au présent du lac à sa noyade, puis il nous emmène dans des digressions qui finalement, au lieu d'être des digressions, deviennent les continents principaux du livre. Mais il y a toujours cette idée d'onde, vraiment, de mécanique des fluides, quoi. Donc il y a toujours ce cercle à la fois de ses souvenirs et de... Et bon, et cette nuit du lait là, qui n'en finit pas d'être annoncée comme une délivrance,
avec un aspect refrain aussi dans ce refrain de chanson.
Oui, on peut dire ça, mais j'ai rien compris parce que je mets pas de refrain dans mes chansons. Mmh. Et si j'en mets dans les livres, c'est que j'ai vraiment fait tout à l'envers depuis le début et que j'ai déconné. Voilà ce que je pourrais dire de ça.
Donc c'est un narrateur qui, on sent, ressent son propre corps comme une prison quand même, parce qu'en dernière instance il se dit bon bah mon corps va se noyer, mais moi je vais essayer d'en sortir. Enfin, il le dit mieux que ça, mais il est peut-être encore temps de quitter ça, quoi.
Oui. Oui. Non, mais tout lui pose problème. De toute façon, on a bien vu depuis le début que c'est un personnage qui n'est au monde que par la parole, finalement, parce que ce qu'il est capable de dire, de déployer, c'est ça qui le sauve aussi. Non, c'est vrai que son corps a l'air de l'empêcher un petit peu. D'ailleurs, il s'en explique. Il n'a jamais fait d'effort pour le garder en bonne forme, parce que... Il ne simplement voyait pas tellement l'intérêt de le faire. Il trouvait ça minable. Après, parce qu'il voit fuir, il voit son dans la panique, son cerveau commence à faire des récits, des fragments de récits, de souvenirs qui s'échappent comme ça de manière incontrôlée de son esprit, occupé par la panique, et des flashs, des choses. Et donc il voit que ce qui est de l'ordre de la pensée, du raisonnement, du langage est en train de le déserter. Et il se dit, moi aussi, je veux quitter ce bordel, quoi. Mmh. Tant pis pour l'autre qui se noie. Donc c'est une sorte de choses disséquées un peu comme ça, où soi et soi seraient pas exactement la même chose. La parole et soi seraient peut-être la même chose. Le corps est un véhicule avec lequel tantôt on entretient de bons sentiments, de bons rapports, tantôt pas. Lui, apparemment pas, et manifestement jamais. Mauvais nageur.
Avec une crampe qui n'arrange rien. Alors j'ai une dernière question pour conclure. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a donné envie de publier chez POL ? Est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous aimiez leurs publications ?
Bon, il y a énormément de publications chez POL, comme vous le savez, donc je ne pourrais pas dire que je connais tout et que j'ai tout lu, bien sûr que non. Mais je remarque que depuis de nombreuses années, le hasard de mes lectures, de mes goûts de lecteur, m'ont souvent conduit à avoir entre les mains des ouvrages publiés par cette maison d'édition, qui, pour avoir une collection très reconnue, très reconnaissable et connue des lecteurs, hein, parce que c'est une, hein, on voit bien un livre de Chaperel, ce que c'est. Pour autant, il y a une grande, quand même, c'est assez éclectique quand même. Et encore une fois, dans cette éclectique, éclectisme, des liens mystérieux qui sont le propre d'une ligne éditoriale, qui m'apparaissent comme une sorte de lumière que je crois comprendre parfois, ou saisir, sentir, c'est très cohérent, par une magie que j'ai du mal à définir, puisque aussi bien Valère Novarina, que j'ai lu dans les pages de Chevrel, que Valérie Mrégin, ou je pourrais en citer beaucoup, mais...
J'ai pensé à Cadio, moi, en vous lisant.
Oui. Bah, c'est peut-être lié aussi.
Je suis conditionné par la couverture.
Un petit peu, quand même, c'est sûr. Cadio, par exemple. Non, j'ai toujours remarqué que il y avait dans ces livres que j'avais entre les mains toujours une part de profondeur et d'humour assez généreux. Que je retrouve chez Novarina, des choses qui sont puissantes, profondes, indéniablement impérieuses. Et puis aussi les rapports plus ou moins directs avec avec d'autres arts, dans le cas de Valère Novarina avec le théâtre, dans le cas de Valérie Mrégin avec l'installation, l'art contemporain, la vidéo, dans le cas de Cadio, ses collaborations avec Rodolphe Burger dans la musique. J'ai trouvé que dans cette maison d'édition, ça ne posait pas un problème particulier, mais qu'au contraire, c'était présenté comme une force. L'expérience que j'ai maintenant me le prouve. Voilà pourquoi j'ai pensé, toujours en écrivant ce livre, que la meilleure chose qui puisse lui arriver serait d'être édité par POL.
Merci beaucoup Bertrand Belin.
Merci beaucoup.